France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. Les anglo-saxons parlent de teen movie pour qualifier le genre cinématographique du film sur et pour les adolescents. Ils ont le mot, nous avons le film, réalisé par Claude Pinoteau et sorti en 1980, La Boum. Ce film d'une génération a littéralement révélé l'actrice Sophie Marceau, Vic, Vic qui rit et Vic qui pleure, ado d'hier et d'aujourd'hui, ado comme nous. Elle va connaître le passage de l'enfance à l'âge adulte, ses disputes avec ses parents, l'entrée par la grande porte du lycée, les premières amours, ses premiers slow, tout comme nous, je vous le disais. Dreams are my reality. Un film culte qui a, au sens propre du terme, changé la vie de centaines de milliers d'adolescents en les faisant vivre ou revivre cet âge pas toujours si tendre à travers des personnages qui leur ressemblent. Le cinéma comme miroir, La Boum a mis le réel dans l'écran. Comment sent-on peut-être l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat fait entrer la locomotive dans la salle de cinéma. Une révolution sensible, un film qui a changé le monde, on vous le disait. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films, nous avons décidé de revenir sur l'histoire particulière de La Boum. On est ensemble pour une heure de discussion innocente qui ne pouvait commencer que comme ça, avec le mot du réalisateur Claude Pinoteau et l'un des tubes de l'incontournable bande originale du film, signé Vladimir Kosma.
L'idée vient de Daniel Thompson qui, à l'origine, voulait écrire un peu les rapports entre sa fille et sa grand-mère. Et c'est parti de là. Et elle s'est rendue compte, en faisant des enquêtes autour d'elle, en voyant les conseillers d'éducation de différents lycées parisiens, que ce qui se passe, se produisait, l'explosion qui se produisait en classe de 3e, se produit maintenant en classe de 5e. Alors les 13 ans, lui ont paru, est un créneau dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui est en fait maintenant une sorte d'explosion. D'ailleurs, quand on regarde le titre La Boum, c'est aussi dans le dictionnaire une explosion soudaine. Et il se passe, d'ailleurs, à un moment donné, Brasseur le dit, quand il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a là ?» Brigitte Fosset répond ben, « 13 ans ». There's light in the lobby. There's music playing now. I'm glad you are with me. I'm glad that you stay. I feel that I know you so real I can show you my wish is we'll go on forever. There's light in the lobby.
Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 13 ans. Le pitch du film, le pitch de La Boum, tient dans une réplique, cette réplique culte. Qui a déjà eu 13 ans parmi vous? Avec nous aujourd'hui, trois invités. Celle par qui tout est arrivé, Daniel Thompson, bonjour.
Bonjour.
Scénariste de La Boum, réalisatrice de La Bûche ou encore fauteuil d'orchestre. Alex Baupin, bonjour.
Bonjour.
Venu avec sa casquette de cinéphile et de compositeur de musique de film, notamment ceux de Christophe Honoré et ceux de Christophe Charrier. Olivier Davenas, bonjour.
Bonjour.
Prof de philo à Lyon 3, toujours. Auteur de Teen Cinéma de l'adolescence. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va entrer dans l'image, entrer dans le film tout de suite avec un premier extrait. Retour à La Boum, plus de 40 ans après.
Qu'est-ce qu'on bouffe ?
Il y a de la quiche et des trucs froids, tu m'excuses, mais ce soir...
Ah mais c'est vrai, vous faites VSD, alors comment ça s'est passé ?
J'ai peut-être une chance avec Guibert. Je le revois demain matin. Ben vas-y.
Vous avez réfléchi pour ma mob ?
Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non ?
Ça ?
Il y a la surboom de samedi.
Quelle surboom ?
Boom, pas surboom.
C'est chez qui ?
Un mec, tu connais pas.
Enfin, comment il s'appelle ?
Raoul.
Raoul, comment ?
Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ?
Enfin, t'as l'adresse, le téléphone ?
Non, tout le monde y va, je me débrouillerai.
Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon.
Mais c'est pas un goûter d'enfant !
Justement, c'est à quelle heure ?
8 heures.
Jusqu'à quelle heure ?
Mais qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom? J'ai l'air débile.
Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans...
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
Voilà. Alors, qui a déjà eu 13 ans parmi vous, Alex Baupin?
Oui, bien sûr, j'ai eu 13 ans. J'étais pas dans cet état-là, moi j'étais un adolescent beaucoup moins rebelle, elle est pas tant rebelle que ça en plus, Vic en l'occurrence. Puis elle a la chance d'avoir des parents qui sont vraiment les parents qu'on rêverait d'avoir. Moi, je trouve que c'est la grande réussite de la Boom, c'est que j'avais l'impression jusque-là que les crises d'adolescence elles se faisaient en antagonisme par rapport aux parents. Et que là, tout d'un coup, on a un modèle de parents qui sont des baby-boomers, quoi. Donc, ils sont beaucoup plus compréhensifs, puis qui font des bêtises, eux aussi. Et quand on regardait la Boom à 13 ans, non seulement on voulait être Vic, ou Raoul, ou Mathieu, tout ça, mais en plus, on voulait avoir la famille de Vic. C'était ça, moi, je trouvais la grande réussite pour les adolescents quand on regardait ce film-là.
Et pourtant, les parents sont eux-mêmes complètement empêtrés, enfoncés dans leurs propres histoires. Et on l'entend dans cet extrait. Ils passent à côté de choses qui semblent essentielles aux yeux de leur fille. 13 ans, dans le film, Vic, Sophie Marceau, 15 ans, à l'époque quand elle joue ce rôle. Raoul, il y avait beaucoup d'enfants, de garçons qui s'appelaient Raoul en 1980. Daniel Thompson.
J'imagine, je m'en souviens plus très bien.
C'est vous qui avez choisi
les
prénoms.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on emploie ce terme adolescent et en fait, c'était ça aussi la clé de toute cette histoire, c'est que Sophie avait 12 ans quand elle a tourné, puisqu'elle a eu 13 ans quelques mois après la fin du tournage, donc elle avait en fait 12 ans et demi. Et 12 ans et demi, on est encore un enfant. Et moi, c'était ça le point de départ de ce dont parlait justement Claude Pinoteau tout à l'heure. C'était que je m'attendais, en effet, à avoir cette conversation éventuellement quand ma fille allait avoir 15 ans. Et tout à coup, c'est 3 ans d'avance qui m'arrivent en pleine tronche. Et je suis stupéfaite que les choses ont tellement changé depuis mon époque. Je suis pas tellement vieille à l'époque. J'ai 36, 37 ans, je crois. Et je vis moi-même des choses sentimentales très, très, très intenses. Et j'ai tout à coup une petite fille qui me regarde comme une vieille dame qui ne comprend rien à l'amour et qui ne sait rien, qui ne peut pas imaginer pourquoi son cœur bat. Et c'était ça aussi qui était la grande différence avec... tout ce qui avait été fait, qui était généralement quand même des gens un tout petit peu plus âgés. C'était rarement des gens si jeunes.
On revient généralement au début, avant d'analyser trop, de raconter nos souvenirs sur ce film et nos impressions, notre expérience aussi de spectateur, sur la fiche technique. Et je vais compter sur vous, Daniel Thompson, pour ce faire, hein, sur ce film. Combien de temps d'écriture?
Oh, ça a été bizarre l'écriture, parce qu'en fait c'était conçu au départ pour faire une série de télévision, figurez-vous, alors que à l'époque il y en avait peu. Et moi, j'avais vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années et je voyais ce qui se passait là-bas. Et donc, je commençais à me dire, mais c'est peut-être le moment de penser à raconter des histoires en plusieurs heures et en plusieurs épisodes. Enfin, c'était le tout début de tout ça.
Vous avez fait les Claudines avant, non?
J'avais fait les Claudines avant, exactement.
2 ans avant.
Et j'avais fait les Claudines avec beaucoup de plaisir, alors qu'en fait, les grands auteurs de l'époque, les Dabadie, les Francis Weber, tous ces gens-là, je veux dire, la télévision et les comédiens d'ailleurs, la télévision, ça ne me fallait pas toucher, c'était vraiment une sous-activité. Et donc, moi qui ne travaillais qu'avec mon père à l'époque et qui rêvais que tout à coup, quelqu'un me demande de faire autre chose, je m'étais lancé dans les Claudines, effectivement, d'Edouard Molinaro. Et j'avais adoré écrire ces 4 fois 1 heure. Et donc, j'avais envisagé ça pour la télévision. Et c'est quand j'ai rencontré Claude Pinoteau que m'a présenté Alain Poiré, qui dirigeait la Gaumont à l'époque. Il m'a demandé si j'avais pas une idée. J'ai dit, je suis en train justement d'écrire l'histoire d'une petite fille, de sa mère, de sa grand-mère, enfin bref. Et je lui ai un petit peu raconté le pitch, comme on dit. Et ils se sont jetés dessus et on a commencé à écrire ensemble cette série de télévision. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une sorte de crise d'angoisse pendant cette écriture. Je me souviens très bien, j'ai téléphoné à tout le monde, j'ai fait une réunion et j'ai dit voilà, je pense qu'on est en train de se planter parce que en fait, il faut concentrer ça et faire un film. Et puis on verra après si on fait une suite ou une série de télévision. C'est trouvé qu'on a fait une suite. Mais ça a été une bousculade intense et du coup, ça a pris plus longtemps que je ne pensais. Mais enfin, je pense que ça nous a pris quand même presque 1 an et demi.
Et puis, il va y avoir le casting, on va y revenir. Et puis, il va y avoir le tournage. Est-ce que quelqu'un a des anecdotes de tournage à nous raconter, Olivier Davenas? Est-ce que vous avez
pas
quelques indiscrets?
Ah, bah, si, si, si. Moi, j'étais très peu au tournage à l'époque. J'étais scénariste, j'étais pas sur le plateau.
Ah oui. Mais j'aimerais revenir sur 13 ans, justement. Parce que vous venez de l'évoquer à nouveau, les propos de Pinotto qu'on a entendus
en introduction.
Vous avez évoqué aussi en introduction les teen movies. Et effectivement, la première grande différence entre La Boum et sa singularité aussi, et les teen movies nord-américains, notamment celui qu'on considère comme le premier d'entre eux, American Graffiti, c'est cet âge, effectivement, 13 ans, jusqu'à 15 ans avec La Boum 2. Là où, dans les teen movies américains, et c'est encore vrai aujourd'hui, dans les teen movies américains, les adolescents dont on nous parle ont plutôt 17-18 ans, sont en classe terminale, ils ne sont pas au collège, leur corps est déjà tout à fait formé, ils ont déjà eu une vie amoureuse plutôt conséquente, parfois ils sont assez politisés, on peut les identifier à une génération et au combat d'une génération, quand on a 12 ou 13 ans, quand on est une enfant, comme vous le disiez, Daniel, on est surtout occupé à appréhender les contours de son corps et de son cœur.
On est un être en devenir, totalement.
Oui. Ouais.
Il y a pas d'anecdote.
C'est vrai que ça change tout.
Ouais.
C'est vrai que ça change tout. Et moi, j'avais été très séduite par une série américaine que vous devez connaître, qui s'appelait Happy Days,
oui.
Avec le fameux Fonzie, qui était le grand héros mais qui était encore une fois des gens qui avaient 3 ans de plus. Ils avaient 15-16 ans dans Happy Days. Mais en fait, j'avais ce mélange-là et j'avais surtout ma fille. J'avais ma fille que j'observais, qui avait effectivement 12 ans, donc quelques mois auparavant. Et puis je suis rentrée un jour chez moi et j'ai vu toutes les lumières éteintes, les rideaux fermés, de la musique, et des tout petits enfants qui dansaient enlacés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, c'était une boum.
Voir une surboum.
Ouais, évidemment, très démodé, j'ai écrit ça surboum à l'époque. Parce que, voilà. Et donc, en effet, à mon époque, qui était quand même pas si lointaine que ça, puisque j'étais pas si vieille, c'était les surbooms et c'était à partir de 15 ans, si on avait l'autorisation des parents.
Alors, c'est un film taillé sur mesure pour votre fille, Caroline, qui est devenue l'habit de toute une génération. C'est ce qu'on appelle une cote bien taillée, Daniel Thompson. Vous, à l'écriture, et Claude Pinotto, derrière la caméra, qui est déjà un réalisateur, un cinéaste confirmé à l'époque. Elle est où, pour vous, la patte Pinotto dans ce film?
La patte Pinotto, elle est très importante. C'est un film de Claude Pinotto. Et il a d'ailleurs, on a écrit le scénario ensemble. Moi, j'ai écrit les dialogues, mais on a écrit le scénario ensemble. Et Claude avait fait La Gifle, déjà, qui était quand même aussi un film, tout de même, sur les générations, et un film très réussi, et très, très, très joliment écrit par Jean-Loup Dabadie. Et donc, et puis il avait lui-même une fille qui avait 17 ans à l'époque. Enfin, il était même plongé dans un univers comme ça par ses enfants et par son travail. Et c'est une mise en scène très légère, élégante, comme l'était Claude d'ailleurs, qui était quelqu'un d'extraordinairement consciencieux, appliqué, mais qui avait un sens de, non pas du comique, mais de la comédie, et de la comédie légère. Et il a beaucoup apporté.
À ce film.
Et
ça se voit aussi à l'image. C'est important de voir aussi comment ces mots, ces répliques, ce qu'on a imaginé tout simplement, hein, passent après dans l'écran, également pour une scénariste ou une co-scénariste. Alors le succès de La Boum tient bien sûr aussi à son casting. Claude Brasseur pour le père, Brigitte Fosset pour la mère et Sophie Marceau, on va revenir sur la figure de la grand-mère. Et bien sûr Sophie Marceau qui était donc la perle rare. Apparemment, vous l'avez beaucoup cherchée et vous l'avez trouvée. Et c'est la révélation Sophie par Claude Pinotto.
C'est Françoise Millidret qui était chargée du casting et on a alerté vraiment tous les médias, c'est-à-dire pas seulement la radio, les journaux, mais également on a averti, on a visité les cours de tennis, les piscines, on a fait les cours de lycée, on avait obtenu l'autorisation de faire rentrer une caméra.
Vous faisiez la sortie des écoles.
Exactement, sortie des écoles, des lycées avec des cartes Gaumont, parce que et ça a duré des mois. Et comme tous les samedis, on convoquait justement, ça avait été annoncé à la radio, on recevait les jeunes dans un grand studio vide à Billancourt, avec une caméra qui faisait gros plans et plans-pieds, et puis une chaîne qui diffusait du rock pour voir comment il dansait. Si bien qu'on en a vu des milliers, mais des milliers. Et, pas seulement pour Vic, mais également pour distribuer d'autres rôles. Voilà, et petit à petit, bien, nous avons sélectionné. Et un jour, enfin un soir exactement, Sophie est rentrée dans mon bureau, voilà. Sophie est rentrée avec une espèce de sérieux. Elle n'était pas comme les autres filles qui cherchaient à faire du charme en mettant en scène. Elle est rentrée très noble, très bien droite comme ça. Elle se contrôle, elle avait un self-control extraordinaire. Et j'ai dit à François, si son ramage se rapporte à son plumage, je crois qu'on tient le phénix du film. Et voilà, je lui ai donné deux pages à prendre par cœur, les passer dans le bureau d'à côté. Avec Françoise, on a dit, je crois que ça y est, on se faisait tellement de soucis, mon Dieu. Quand elle est revenue, je lui ai donné la réplique, et puis ça y était, quoi. Alors après, les cassettes, on les a montrées à Daniel et à Alain Poire, on s'est tous mis d'accord.
Voilà, pour la découverte de Sophie Marceau. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue, Daniel Thomson?
Je me souviens très très bien. Françoise, il s'agit de Françoise Ménidret, qui était notre casting, et qui effectivement avait fait toutes ses recherches avec Claude. Et tous les soirs, Claude rentrait de ces fameux essais dont il vient de vous parler. Et tous les soirs, vous savez, c'était les grosses cassettes, je ne sais plus comment elles s'appelaient.
Les grosses cassettes bêta.
Voilà, les grosses cassettes bêta. Et on avait donc l'appareil, on les mettait dedans. Et tous les soirs, à peu près entre 18h et 20h, il venait me montrer tous les gamins et les gamines qu'il avait filmé l'après-midi ou la veille. Et effectivement, on en mettait de côté. Alors, on avait tous ceux qui sont autour et qui sont les copains et les copines. Dès qu'on avait quelqu'un qu'on trouvait très bien, on le mettait de côté. Mais on se disait tout le temps, oui, mais c'est pas elle encore. C'était pas elle encore. Et c'était pas elle encore pendant très, 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 très longtemps. Et on avait une bande de filles formidables, qui sont d'ailleurs dans le film. Mais c'était toujours pas Vic. Et puis un jour, effectivement, il est arrivé, on a enclenché tout ça, et j'ai vu ses essais, j'ai vu le visage de cette petite fille, et je dis à Claude, effectivement, voilà, on est rendu.
C'est elle, c'est elle. On a notre Vic. C'est un film pour vous, Olivier Davenas, qui formate la figure de l'adolescent, ou qui la libère au contraire, la boum?
Moi, j'aurais plutôt tendance à répondre qui la libère, et pas uniquement parce que Daniel Thomson est à côté de moi. Plutôt qui la libère, mais c'est lié aussi à la singularité du film, qui n'est vraiment pas réductible à la tradition nord-américaine du teen movie, ou si peu. Hein. On va trouver quelques personnages un peu archétypiques, comme le personnage du nerd, le personnage de Stéphane. Il s'en tire plutôt bien, d'ailleurs, dans la Boom 2. Je crois que la condition adolescente est libérée, en tout cas que la Boom contribue à cette libération de la condition adolescente, mais parce que le personnage de Vic est pris dans une généalogie de femmes aussi. La figure de la grand-mère, bien entendu, qui est déjà une figure d'émancipation, et donc une sorte de mise en miroir entre Poupette et Vic, elle a de qui tenir, pourrait-on dire. Et puis là, une autre figure de femme qui se bat, Françoise, sa mère. Moi, j'ai été épaté en revoyant le film ce week-end, forcément pour préparer l'émission, des propos tenus par Françoise. Alors peut-être plus dans la Boom 2 que dans le premier.
Parce qu'il y a la problématique du choix du métier du mari et de la femme dans la Boom 2 qui est plus fort dans la Boom 1.
Il doit partir à Lyon et il est évident qu'elle doit suivre. Voilà, qui est prioritaire, et elle lui explique, Françoise explique à son époux que il n'est absolument pas prioritaire, qu'elle pourrait tout autant l'être. Et puis elle est dessinatrice, alors elle fait penser à Claire Bretécher. J'imagine que vous aviez Bretécher en tête aussi quand vous avez écrit Françoise. Et donc, prise dans cette généalogie de grand-mère, enfin d'arrière-grand-mère en l'occurrence, de mère libérée ou qui en tout cas ferraille pour se libérer, Vic, comme femme et comme adolescente, se libère sous nos yeux et nous libère sans doute avec elle.
Oui, parce qu'elle ne se laisse pas faire.
Non.
Elle ne se laisse pas faire.
Non, non.
Ni les unes ni les autres. Et puis la grand-mère, qui est en fait effectivement la grand-mère de la mère. Donc l'arrière-grand-mère de Vic, qui est cette femme qui est évidemment très inspirée de ma grand-mère. C'est une femme qui travaille. Elle est quand même déjà une vieille dame.
Alors qu'elle est encore.
Elle est musicienne. Elle conduit. Elle est musicienne. Elle est indépendante. Elle a eu des amants. Elle en parle.
De Fujita notamment.
Pardon.
Fujita,
absolument.
Explicitement.
Effectivement. Et donc, c'est une femme d'une génération qui normalement ne vivait pas comme ça. Et c'est un personnage qui est inspiré entre ma grand-mère et Colette, justement, qui sont des femmes qui ont vécu à une époque où elles ont osé vivre autrement.
Oui, mais elle n'oublie pas que l'adolescence est une zone sensible.
C'est et fragile.
Cette mère et cette grand-mère est fragile. Hein. Justement, sur le rapport à la norme, sur le rapport à l'autorité, sur le rapport à l'identité hein, qu'on a commencé à évoquer de Vic par rapport à ses parents, de Vic par rapport à ses camarades aussi. Alex Baupin, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans le film ?
Moi, c'est un film que j'ai vu à l'âge de Vic, à peu près, c'est-à-dire à 12 ans, alors que j'ai eu 12 ans beaucoup plus tard que la sortie du film. Parce que c'est un film, moi, quand il est sorti, j'avais 7 ans ou 6 ans. Donc j'étais beaucoup trop jeune pour y aller. Et puis ensuite, il a été diffusé à la télévision. Mais, bon, et là, je vais dire un truc pas très... J'imagine que mes parents, à l'époque, considéraient que c'était un film un peu... Voilà, que un peu commercial et tout. Mais alors, par contre, c'est un film qu'on m'a raconté. Mais qu'on m'a raconté très précisément, le 1 comme le 2, à l'école et au début du collège, avant que je le voie. Donc moi, avant de voir le film, je le connaissais par cœur. Et quand je suis tombé face au film à l'âge, donc qui correspondait à l'âge des protagonistes, je me suis reconnu, mais peut-être reconnu parce que j'avais déjà vécu cette aventure, parce qu'on me l'avait raconté. Et c'est ça qu'en fait pour moi un film vraiment culte d'une génération, c'est que c'est non seulement un film qu'on allait voir, mais en plus un film qu'on se disait, qu'on se racontait dans les cours d'école, mais qu'on se racontait avec des scènes très précises. Et puis alors,
oui, bah la scène du baiser,
la
c'est
scène
le
du baiser
qui se
évidemment,
prend dans l'appareil dentaire.
L'appareil dentaire, la scène du tapin dans la boum 2. Je me rappelle que moi enfant, ça me choquait énormément qu'on raconte ça dans un film, mais quand même on me l'avait raconté.
Ça reste choquant.
Mais il y avait quelque chose que je trouvais avec le père qui déboule en plus. Il y a quand
c'est
même
encore plus.
Mais pardon, j'ai pas du tout répondu à votre question de quelle adolescente je regardais. Mais c'est marrant ce que disait Olivier que j'avais pas appréhendé non plus. Mais c'est vrai que l'autre truc de la boum, c'est que j'ai l'impression que ça définit un type de teen movie vraiment à la française, et avec des choses qui vont venir après, qui sont À nos amours, par exemple, de Piala,
ou Les Frontés,
Pauline à la plage, et en plus avec à chaque fois une actrice qui surgit, qui apparaît, qui est Bonnaire, Charlotte Gainsbourg, Sophie Marceau, et que on va, nous, comme spectateurs, suivre jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très français dans cette idée-là, mais qui est créé réellement, parce que Diabolomante, il y a Diabolomante avant, mais l'actrice de Diabolomante, elle continue pas à faire une carrière en réalité. Et donc, il y a ce truc aussi qui est très émouvant, je trouve, dans la boum, c'est que ça crée cet archétype-là qui est très français.
Il y a cette filiation avec Diabolomante qui est justement la musique, celle de Yves Simon dans Diabolomante, et qu'on retrouve ici une musique, je dirais, qui une identité extrêmement forte, qui marque les esprits, qu'on sait chanter des années durant et sur laquelle on a pu danser, et elle est signée Vladimir Cosma pour cette musique. Alors justement, la musique, moi j'ai encore le 45 tours à la maison.
Avec, c'est vrai.
Le visage de Sophie Marceau, quelle de Vic chance. Et les ballons sur la pochette. Et la boum en une chanson, Alex Baupin, laquelle bah, gardez-vous
Reality,
laquelle...
quand même. Moi, je garde Reality, je garde le tube. Ah non, je ne peux pas chanter en anglais, moi. I met you by surprise, didn't realize. Non, mais vous voyez mon accent.
Et d'ailleurs, on chantait en yaourt.
But we had my life with change forever. Tout ça. Non, mais moi, j'ai jamais chanté. Je me suis jamais permis de chanter la chanson. Je l'ai fait chanter à des gens dans des spectacles que je faisais. Chaque fois que j'ai fait, parce qu'il m'est arrivé de faire des spectacles sur les grandes chansons dans les films français, à chaque fois, il y avait Reality. Moi, je me démerdais pour pas le faire.
Allez, Vladimir Cosma sur cette bande originale.
En fait, le cinéma, c'est le 7e art. C'est la réunion des c'est l'art suprême puisque c'est la réunion de tous les arts. Et c'est l'union qui fait la force, mais ça n'empêche que chaque élément qui constitue le cinéma, c'est-à-dire le texte, le jeu des acteurs, l'image, la musique, tout ça, elle peut vivre indépendamment, comme par exemple dans un Lied de Schubert, qui est écrit parfois sur des poèmes de Goethe. Bon, mais les poèmes, les paroles de Goethe, la poésie, n'a pas besoin de musique, et la musique de Schubert n'a pas besoin non plus de ces mots-là, mais ensemble, ça se réunit et ça fait quelque chose de doublement formidable. Alors, l'image magnifie la musique, donc le cinéma est extraordinaire pour un musicien, puisque ça permet d'amplifier la force émotionnelle que la musique doit avoir d'abord toute seule.
Voilà, la musique telle que Vladimir Cosma la raconte, et c'est magnifique, c'est que le cinéma, c'est l'union. C'est cette union qui fait la force entre toutes les disciplines. C'est une bonne histoire, ce sont des bons acteurs, c'est une bande-son inoubliable, qui est presque un personnage à part entière du film, hein, la musique. Quel décor, quelle atmosphère il campe, Cosma, avec cette musique.
C'est marrant parce que Cosma, moi j'ai lu des interviews où il parlait de cette musique-là, et alors on sent qu'il a beaucoup travaillé, il l'a fait vraiment très très sérieusement, et très sérieusement il s'est penché sur, il l'explique, mais presque sociologiquement, sur comment on écrivait un slow et quel interprète il fallait pour un slow. Donc il a remarqué que c'était plutôt un garçon, que c'était des garçons plutôt blancs, Et donc, il a cherché Richard Sanderson avec cette idée-là en ligne de mire. Et puis après, quand on écoute l'ensemble de la bande-son, ce sont quasiment que des morceaux chantés, en réalité. Il y a un reggae, un ska, un truc un peu swing. Et puis, le slow, quoi. Reality, la boom. Et on sent qu'il a fait ça parce qu'il est très doué et que c'est un grand technicien, un grand artisan. Mais qu'il est dans ce truc de faire du pastiche des choses qui fonctionnent à l'époque et qu'on écoute dans les booms. Et en même temps, il réussit ce truc tout en pastichant à dépasser un tout petit peu le truc parce qu'il a le sens de la mélodie, parce qu'il est sensible et tout ça, qui fait que ça en fait des morceaux qui fonctionnent au-delà de quelque chose qui pourrait être une pâle copie de... il a beaucoup écouté Honesty, de Billy Joel, par exemple, ce genre de choses. Mais c'est encore autre chose quand c'est lui qui le fait. Et moi, cette idée de quelqu'un qui fait de la musique de film, qui fait du pastiche parce qu'on lui demande de le faire, ce qu'on nous demande souvent de faire quand on fait de la musique de film, parce qu'on met des musiques témoins sur le truc, et quand un compositeur arrive à le dépasser parce qu'il a sa personnalité comme Cosma... ça donne le résultat qu'on entend quand on entend Reality ou les autres morceaux, quoi.
Oui, parce que là, en plus, le challenge, c'est justement, c'est la musique de boom et la musique de film. C'est les deux qui vont arriver à mélanger. Et ça, il l'a merveilleusement bien réussi.
Et on est dans la grande époque du slow, américain. C'est-à-dire que les filles choisissent les garçons.
Le quart d'heure américain.
J'en perds mon langage de boom. Choisissent les garçons avec lesquels elles vont danser ou avec lequel elles souhaitent danser. Et la boom, parce qu'on revient normalement toujours au début de ces émissions sur les titres des films. On a parlé de cette réplique culte. Qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Culte aussi, c'est le titre. Je ne sais pas si vous avez hésité à l'appeler la boom, mais au final, ça fait tellement sens. Parce que la boom, cette fête, c'est presque l'acmé dans le film et dans la vie d'une ado. Ce moment presque craint ou très attendu. Est-ce qu'on y sera invité? Comment on va s'habiller? Avec qui danser? À quelle heure rentrer? Je ne sais pas si c'est la même chose pour les garçons. Daniel Thompson, ce titre de film, il s'est imposé.
J'avais écrit à peu près une page et demie. Et d'une certaine manière, il y a tout. Il y a les personnages, il y a les préoccupations, et ça s'appelait La Boum, déjà. Donc je l'avais écrit La Boum, et boum, c'était le minuscule synopsis, mais en fait, il est très proche de ce que le film deviendra. Donc le titre a toujours existé.
Voilà, vous écriviez Les préoccupations des ados, mais on écoute un extrait.
Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon sauvet.
J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum, n'importe quoi.
Si vous voulez nous inviter, ils nous auraient déjà invités. Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, tu penses?
Ils sont derrière nous!
T'es sûre?
Je te le dis! Je crois qu'ils veulent nous rattraper.
Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis!
Je ralentis davantage, je m'arrête! Mon Dieu, fais qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie!
Hé, Vic, venez là! Hé, attendez-nous! Ça va?
Ouais. Il est chouette, ton survêt.
Oh, moi, je trouve qu'il me fait des grosses cuisses.
Faites quelque chose samedi soir?
Pourquoi?
Je fais une boum, vous pouvez venir?
C'est à quelle heure?
De 8h à...
Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand?
Ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit...
Tu veux y aller, toi? Peut-être.
Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein.
Okay.
Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut.
Salut.
Ça y est! Ça va être génial!
Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson?
T'es pas fière, tes yeux bleus? J'en étais sûre, super sympa!
Bah, c'est mignon! Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il y a?
J'ai rien à mettre.
Olivier Davenas, analysez-nous cette séquence.
Alors là, pour le coup, je vais faire référence à Jacques Doyon au moment de la sortie du jeune Werther, où Jacques Doyon explique que l'enjeu pour lui, quand il a écrit le jeune Werther, c'était pas du tout de faire un film sur les rapports entre les parents, les enfants, alors que ça a beaucoup d'importance dans la boum, que c'était pas non plus l'enjeu de faire un film sur les enfants, les ados et les professeurs, et que l'adolescent, justement, c'était ce moment où en classe il ne se passe rien de vraiment fondamental, à la maison non plus. Le cœur de l'existence d'un adolescent, c'est à la sortie, c'est le matin éventuellement, avant le début des cours, c'est la demi-pension, comme on dit, quand on est collégien et quand on est lycéen. Et ce sont aussi les week-ends où on va se retrouver, et ça peut être aussi la boum. Et c'est là où tous les fantasmes naissent.
C'est là où tous les fantasmes naissent. On va revenir juste deux secondes à la bande original quand même du film et à Vladimir Cosma. Parce que vous, vous avez écrit des musiques de films, notamment hein, Alex Baupin pour Christophe Honoré. Ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Les chansons d'amour en 2007, c'est lui qui a repris vos chansons et qui a écrit aussi le scénario à partir d'elle. Alors que pour Les Bien-Aimés, par exemple, c'était dans le sens inverse. Il écrit le film
et vous apportez les chansons
au fur et à mesure. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé là pour Vladimir Cosma. Est-ce que le film, vous le savez, Daniel Thompson,
on avait besoin de playback, donc il avait évidemment donné des musiques, bien sûr,
une grande partie des musiques. Ouais. Voilà, on l'écoute sur l'atmosphère de cette musique ou de ces musiques.
Je me suis spécialisé, on m'a catalogué comme compositeur de musique de comédie à mes débuts, comme on dit comédie populaire française, etc. Alors que je suis de nature plutôt mélancolique et même mes musiques sont souvent dans un ton mineur et sont plutôt mélancoliques elles aussi. Mais par l'orchestration, par la couleur que j'essaye de donner, le rythme que je donne, j'essaye de camoufler un peu cette mélancolie et de les transformer dans quelque chose d'enjoué, joyeux et qui fait un obstacle à cette mélancolie.
Il y a tout ça dans la bande originale, Alex Baupin. Quand vous l'écoutez ou quand vous regardez le film de La Boom, on évoquait le titre Reality tout à l'heure, interprété par Richard Sanderson. Est-ce qu'il y a ce mélange justement de mélancolie un peu atténuée?
Oui, mais parce qu'il fait une bande son pop là, Vladimir Cosma, ce qu'il a fait plusieurs fois. Et alors ça, c'est un truc que je répète tout le temps, mais je pense que c'est profondément vrai. Je suis persuadé que la pop, c'est chanter légèrement des choses graves. Voilà, c'est l'idée d'être profondément superficiel, voilà. Et il y a ça dans La Boom, en fait. Il y a quelque chose qui n'a l'air de rien. Et puis quand on entend la chanson, eh bien, non seulement parce que ça nous ramène à des souvenirs, mais par la façon dont elle est écrite, voilà. Mais c'est souvent le cas de la pop, c'est que ça n'a l'air de rien, et puis finalement, ça raconte des choses absolument essentielles.
Superficielles et universelles.
Exactement. Et c'est vrai que chez Cosma, même dans ses autres musiques de comédie, c'est vrai qu'il écrit souvent en mode mineur, qu'on a toujours l'impression que tout ça est très joyeux, mais il suffit de les jouer, par exemple, au piano et de les dépouiller des orchestrations que lui leur adjoint, et notamment des batteries et des rythmiques qu'il met, pour se rendre compte que tout ça est profondément slave, peut-être, enfin, ou en tout cas roumain, et profondément, il y a quelque chose qui est très mélancolique.
Et l'importance de la bande-son dans le film, des musiques, des chansons, elle est aussi cruciale par rapport à cet âge, par rapport à cette génération. Parce qu'il y a le Walkman qui est quand même un objet presque central de ce film.
Bah, c'est merveilleux, parce que là, on peut pas mettre autrement aussi bien une musique en avant. C'est-à-dire qu'ils sont à La Boom et puis il y a son amoureux. Je me demande, c'est pas, c'est dans la une ou dans la deux d'ailleurs?
C'est dans la une.
Il arrive et puis tout le monde danse autour, une espèce de ska, quelque chose de très rythmé. Il arrive, il lui met les écouteurs.
Du Walkman.
Et donc elle entend Reality, le slow, et ils dansent tous les deux. Déjà pour dire les amoureux sont seuls au monde, il y a quand même pas plus intelligent comme scène. Et puis alors, pour un musicien de film, quand tout d'un coup on vous dit toute la salle va entendre vraiment ta musique sans que les bruits autour ça dérange, ça arrive très très rarement, ça c'est un vrai cadeau.
Et la musique, à cet âge-là, commence à prendre énormément d'importance. Non pas que les comptines de l'enfance ne le sont pas, mais c'est vrai que 13 ans, c'est le moment où on commence à se raconter des histoires dans nos têtes, Daniel Thompson, en musique.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que finalement, ces fameux paroles « Dreams are my reality », ça colle très bien avec ce qu'on raconte. Parce que c'est quand même encore un âge où, en principe, les choses sont impossibles de se concrétiser. Ça fait partie aussi d'une des scènes de La Boom, justement, quand elle se retrouve dans cette cabane la nuit avec ce garçon et que tout à coup, tout pourrait être possible, mais que tout n'est pas possible, justement, parce que ce sont des enfants. Et donc, on retombe vraiment sur ce thème « Dreams are my reality ». Et puis, ça va, évidemment, dans la Boom 2, on va passer à des choses plus sérieuses, si j'ose dire.
Oui, puis cette scène avec le Walkman, c'est une magnifique image du coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, c'est la mise entre parenthèses de l'environnement, alors de l'environnement direct. Les autres,
on est seul.
Les autres jeunes gens qui sont là en train de bogoter, on dirait aujourd'hui. Mais c'est aussi une belle métaphore de l'adolescence. Hein. C'est le moment où on se concentre un peu sur soi.
Et sur l'amitié quand même, Olivier Davenas, vous qui avez travaillé là-dessus avec ce livre, Teen, cinéma de l'adolescence, c'est important de le dire aussi, c'est quand même un film qui montre ça. Les premières amours, le premier baiser échangé, le moment où les filles et les garçons commencent à se regarder, parce qu'avant ça, on reste en groupe, entre filles ou entre garçons, et la place de l'amitié, et les copines de Vic sont très importantes hein, dans le film aussi.
Oui, Pénélope. En particulier, sa petite sœur, qui est une drôlerie absolument incroyable, comportement assez subversif, surtout aujourd'hui. Ah oui, c'est...
Bah oui, avec le brasseur quand même, oui. Il se passe quelque chose de très très subversif.
Oui, d'ailleurs, ouais. Vous savez, c'est bizarre parce que finalement, on n'a vraiment pas l'impression quand même d'un film subversif.
Non.
Mais aujourd'hui, quand on regarde tout ça, je pense que cette écriture-là, qui était finalement d'une grande liberté, où franchement, on n'a jamais imaginé que ça pouvait choquer qui que ce soit.
Mais c'était des ressorts dramatiques
il y a,
aussi.
Des ressorts dramatiques aussi. Il y a la fameuse scène du pop-corn aussi, qui pourrait aujourd'hui paraître extrêmement déplacée.
Alors, il faut raconter, on est, pour ceux qui n'ont pas vu le film.
Qui n'a pas vu le film?
Alors moi, c'est une des premières scènes, quand je disais qu'on me l'a raconté, c'est une des premières scènes qu'on a raconté, effectivement, la scène pop-corn. Du pop-corn.
Ah ouais, voilà. C'est vrai qu'elle est terrible. Donc, vous allez nous la raconter.
C'est moi qui m'y colle. Ils sont au cinéma, c'est un garçon qui a fait il a un grand sachet de pop-corn et puis il a fait un trou au fond de son sachet et à l'intérieur du trou il a glissé son sexe, ce qui fait que quand la jeune fille qui est à côté de lui prend des pop-corn, elle va finir inévitablement par le toucher.
Ouais. Et ça, et c'est dégueu.
C'est presque American Pie tout d'un coup. Oui. D'ailleurs,
ça c'est votre idée, Daniel. L'idée est venue d'un copain, alors là, de mon enfance à moi. Ça, je n'avais jamais oublié. Non pas que ça me soit arrivé à moi, mais on m'a raconté, qui était un mec très drôle d'ailleurs. Ça m'avait fait hurler de rire, évidemment. Et donc, 20 ans plus tard, j'ai remis ça dans le scénario. Et c'est vrai que, encore une fois, aujourd'hui, ça, l'histoire avec la petite Samantha qui, finalement, a cette espèce de regard vers Claude Brasseur et se tortille devant lui parce qu'elle est séduite par cet homme qui est le père de sa copine. Elle qui embrasse son père dans la boîte de nuit pour faire croire qu'elle a un copain plus âgé. Je veux dire, on est en train de naviguer dans quelque chose qui aujourd'hui pourrait poser problème, n'est-ce pas?
Oui, oui. Mais les amitiés sont assez pacifiques. Il y a un peu de jalousie entre Pénélope et Vic, mais pas tant que ça. C'est peut-être plus tard.
Non, la jalousie, c'est avec la ravissante, je me souviens plus si elle s'appelle Nadia ou Claudia, là, du coup j'ai oublié. C'est la ravissante qui est danseuse de l'opéra d'ailleurs, qui jouait la rivale.
On est en bonne compagnie aujourd'hui, on vous parle de La Boum de Claude Pinoteau, scénarisé par Daniel Thompson, qui est notre premier invité, avec Alex Baupin à nos côtés, compositeur, interprète, qui a signé plusieurs musiques de films, dont celle de Christophe Honoré, et Olivier Davenas, prof de philo, philosophe également, et auteur de Teen, cinéma de l'adolescence.
Je peux vous demander quelque chose?
France Culture.
Ne me dites pas qu'elle est intelligente et qu'elle ne fait rien.
J'allais pas vous dire ça.
Les films qui ont changé le monde.
J'allais tout simplement vous dire que votre fille me prenait pour un con.
Olivia Gesbert.
Selon le documentaire La Boum éternelle, histoire d'un grand film sans prétention, diffusé sur France Télévisions, c'est une interview de Vladimir Kosmach et Michel Drucker sur RTL qui a lancé les ventes de disques et redonné une chance aussi au film en salle après un premier jour, un démarrage assez poussif. Comme quoi, à l'époque, la radio avait encore cette force de prescription. Un démarrage poussif, puis un bouche à oreille d'enfer et enfin un carton, Daniel Thompson, plus de 4 millions d'entrées cette année-là pour La Boum, qui restera, je crois, à l'affiche pendant 8 mois. Hein.
Ce qui était c'était une aventure.
Succès quand même inattendu.
Le premier jour a été un désastre. Il y avait un très joli film de Claude Berry, d'ailleurs, qui était sorti le même jour, qui était Je vous aime, et qui avait fait, plus de 10 000 entrées, quelque chose comme ça. On avait fait 2009, je me souviens. Et on était en train de dîner entre nous au Fouquet's, où on attendait les chiffres. Et je veux dire qu'on était vraiment horriblement tristes, parce que c'est quand même très très rare quand ces choses-là démarrent aussi bas que ça remonte. Puis j'ai reçu un coup de fil le lendemain soir, vers minuit, du distributeur René Bonnel, qui s'occupait de la distribution à la Gaumont, qui me dit c'est très 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 curieux, on est jeudi, et il y a eu 3200 entrées. Bon, moi j'avais quand même... j'arrive de la Grande Vadrouille et de l'As des As et tout ça, franchement, 3200 entrées, ça me remontait pas vraiment le moral.
Il va falloir faire la plonge au Fouquet's, après.
Oui, donc 3200 entrées, il me dit, mais jamais, c'est plus le jeudi que le mercredi, ça n'existe pas. Je dis bon, pas très bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bon, et puis le lendemain, vendredi, il y a eu 6000, et puis le samedi 10000 et le dimanche 20000. Enfin, ça a été une espèce de raz-de-marée qui est arrivée en un week-end. Et on était totalement stupéfaits de ce qui était en train de se passer. Et puis ça a été tentaculaire, parce que ça a été la même chose en Allemagne, au Japon et en Italie, ça a été beaucoup plus encore. Il y a eu 7 millions de spectateurs en Italie, je crois. Et il y a eu des reportages de 6 pages dans Il Corriere della Sera.
Et sur... le film a été jusqu'au Japon aussi.
Le Japon, énorme, énorme, ouais. Le Japon. Oui, oui. Moi, je suis allé présenter des films dernièrement au Japon. On m'a fait signer des photos de la Boom.
Ouais. Et Sophie Marceau est une star là-bas. Hein. C'est intéressant aussi de voir, justement, on parlait du côté universel avec la musique, comment un film peut traverser les frontières, alors que ça semble raconter une histoire si française, non, Olivier Damnas?
Une histoire si française. Alors, c'est le début des années 80, le film ouvre la décennie, et j'oserais presque dire qu'il la forme, en quelque sorte. Mais ce qui s'y joue, ce sont des histoires d'amour, et des histoires d'amour en système d'équivalence, puisque les... Alors là, vous m'arrêtez si je me trompe, Daniel Thompson, mais j'ai l'impression que les histoires d'amour des ados sont relativement conformes aux histoires d'amour des adultes dans la Boom, et en l'occurrence de Françoise et François, les parents de Vic. Donc, il est question d'amour, de ce qu'il y a de plus universel.
C'est ça.
Oui, et puis il y a les malentendus, les mensonges, la jalousie. Ouais. Enfin, tout ça est très, très nourri, effectivement, d'émotions. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, je dois dire, et ça me rend très heureuse, le film continue à être très vu aujourd'hui. Moi, j'ai énormément de gens jeunes aujourd'hui qui me disent que c'est un film qui a compté pour eux. Ouais. Des gens qui ont 20 ans, donc ils l'ont vu quand effectivement ils avaient 12 ans. C'est parce qu'en fait, on parle profondément des sentiments.
Alors, on va entrer dans la réception critique de ce film et réception tout court aussi, d'abord avec le public et la jeune génération. On commence par un extrait. Vous vous souvenez, Vic a rejoint Cabourg pour se rapprocher de Mathieu, son crush, comme on dirait aujourd'hui. Et elle y retrouve sa grand-mère, poupette formidable, Denise Gray.
Allô Mathieu ? C'est moi, Vic.
Où es-tu ?
À Cabourg.
Ah bon ? Avec qui ?
Avec personne. J'ai fait une fugue.
Non mais tu es folle.
Quoi ? Et t'es venue comment ? En stop, je t'expliquerai. Je peux te voir ?
Ouais. Mais où tu vas coucher ?
Oh, qu'est-ce que je dis ? Bah, je sais pas, où tu veux ?
J'ai un de ces rhumes. Bon, dans 1 heure devant le casino, d'accord ?
Ok.
Alors là, vraiment, non, mais qu'est-ce qui t'a pris, hein ? Et la copine de Deauville ? L'arrière-grand-mère, ça faisait moche, c'est vrai. Mais la copine de Deauville, elle est parfaite.
Bah, tu m'as dit, je te laisse le libre... Le libre quoi ?
Libre arbitre, mais pas pour lui gâcher ses vacances.
Quoi, lui gâcher ses vacances ?
Tu t'offres, tu arrives, me voilà, c'est déjà... Mais alors, en plus, une femme qui s'offre, ça doit être un cadeau, mais pas une source d'emmerdement.
Bah, il peut bien, s'il m'aime.
Alors là, ma petite vieille, jamais, hein ? Tu t'assumes, tu te donnes, tu te reprends, ça, c'est l'indépendance. L'échange standard minable.
T'as peur que je couche avec lui, hein ?
Il manquerait plus que ça. Attention, hein ? À 14 ans, il y a des enfants qui ont des enfants.
Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu vas pas me laisser tomber, hein ?
Nous remercions Sophie Marceau, vedette de la Boom, d'avoir bien voulu participer à notre super émission L'Orteil en coin. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que tu trouves que le sujet du film La Boom, un bon sujet ?
Oui, je pense que ça retraçait bien la vie actuelle des adolescents. Le dialogue était assez juste. C'est pas pour envoyer des fleurs, mais je crois que... Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas du tout été gênés entre jeunes pour dire le texte qu'on avait à dire, comme c'était vraiment ce qu'on disait dans la vie normale. Donc on n'a pas de...
Aimes-tu ce genre de grand-mère qu'il y a dans La Boom, dans le film ?
Oh, elle est super.
Tu crois que cela existe, ce genre de grand-mère ?
Peut-être pas aussi active, dynamique comme ça, non, mais il y en a comme ça, oui. Par exemple, j'en ai une, moi, qui lui ressemble un peu.
Oh,
enfin, pas aussi dynamique que ça.
Bah, est-ce que tu ressembles beaucoup à la fille qui est du rôle ?
Pas tout à fait, non, parce que j'ai peut-être pas tout à fait les mêmes goûts, le même langage, enfin, ça dépend. Mais en tous les cas, je suis une adolescente comme dans le film, donc j'ai les mêmes problèmes avec les parents. Ou... Je ressemble un peu, oui, au rôle que j'ai joué.
Est-ce que tu aurais aimé vivre cette histoire en vrai ?
Je l'ai un peu vécu, alors je peux te dire, ça dépend.
Très belle interview de Sophie Marceau dans cet extrait, avec ce moment où la jeune fille, la spectatrice, lui dit « C'est marrant, vous ressemblez beaucoup à Vic dans le film », alors que Sophie Marceau en est l'incarnation et la comédienne. Et là, on voit toute la force d'identification, l'effet miroir du cinéma. Hein. Daniel Thompson, Alex Baupin, Olivier Davenas, je ne sais pas qui veut... Peut-être réagir à ça, ce que ça vous inspire ?
Je l'avais jamais entendu, moi, cette interview, donc ça me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est tellement mignon d'entendre cette voix de cette voix d'enfant. Et puis, c'est effectivement, que, comme le disait Claude, il y a un côté posé dans sa manière de répondre.
Elle est très assurée.
Elle est très assurée. Et voilà. Et pendant ce temps-là, il est en train de lui arriver une aventure démentielle. Mais elle a eu sa vie très bouleversée par ce film. Et puis, elle a aussi vécu ce que c'était de devoir se détacher de ce film. Aujourd'hui encore, quand on l'interviewe, on dit l'actrice de La Boum, alors que franchement, elle en a fait d'autres choses après.
Elle en a fait d'autres choses. Elle a eu un beau parcours, ce que vous évoquiez aussi. Elle a vraiment continué avec la peur sur le moment que, et ça arrive à beaucoup de jeunes comédiens dans l'histoire du cinéma, que cette carrière s'arrête et qu'elle soit l'actrice d'un seul rôle ou la femme ou la jeune fille d'un seul rôle. Olivier Davenas, sur cette force d'identification, hein, on l'entend à travers cette rencontre avec Sophie Marceau et ses jeunes.
Surtout que l'identification s'est prolongée, alors via La Boum 2, bien sûr, et même si je sais que L'étudiante n'est pas une suite de La Boum, loin s'en faut, on a pu continuer à s'identifier à Sophie Marceau aux différentes phases de son existence pendant cette décennie 80.
Alors, puisque vous lancez le sujet, on va écouter, parce que les mots de Claude Pinoteau à ce sujet. Ce film, il est devenu quand même trilogie, avec La Boum 2, avec L'étudiante, que vous avez également scénarisé, vous, Daniel Thompson, et toujours réalisé par Claude Pinoteau. On l'écoute.
Et dans mon idée, je souhaitais faire une Boum 2, une Boum 3, c'est-à-dire avoir l'enfance qui arrive à l'adolescence, ensuite, deuxième film, l'adolescence qui parvient à l'âge de la jeune femme, et troisième film, elle connaît l'amour.
Bon, il y a eu deux ans après la Boum 2.
Exactement.
En 82.
Voilà. Donc. Mais il n'y a pas eu la Boum 3. Je regrette de le dire, mais uniquement pour les raisons de nous, on s'est fait massacrer avec La Boum 2 par les médias en disant, bah, bien sûr, c'est un succès, on a droit à la 2, évidemment, et on aura la 3, etc. Ça fait peur à Sophie, ça fait peur à Daniel Thompson, et finalement, on ne l'a pas fait. Et je le regrette pour moi énormément.
Et oui. Il le regrette. Alors, juste quand il dit Alain, c'est Alain Poiret dont vous parliez tout à l'heure de La Gaumont. Le 2.
Ben, ça a très bien marché.
C'est la réception critique.
Oui, il y avait presque plus d'entrées. Dans le 2, ça a très bien marché. Mais tout à coup, pardon.
Il y a une nomination au César pour Sophie Marceau aussi, pour La Boum 2.
Oui. Cosma aussi. Cosma, il a une peut-être, mais il a eu une nomination.
Alors, pourquoi il n'y a pas eu de 3 officiellement?
Il n'y a pas eu de 3, c'était compliqué en fait. Et puis, il y avait un autre film que... Bah, moi, j'étais partie en plus faire d'autres choses. Et puis, il y a eu un autre film que Claude devait tourner avec Sophie et qu'elle a lâché à la dernière minute, ce qui a été un gros problème entre eux. Et un gros problème entre Sophie et La Gaumont. Enfin, et puis ensuite, Sophie avait grandi, avait vieilli un peu... avait rencontré Andrzej Zulawski. Enfin, il y a eu des évolutions des uns et des autres qui ont fait que tout à coup, ce projet a été mis de côté, qu'on avait tous un petit peu perdu l'envie de continuer l'aventure et de d'étaler un peu trop la confiture, j'imagine. Et puis ensuite, on a écrit effectivement L'étudiante, mais pour nous, L'étudiante n'est pas du tout La Boum 3, bien que, évidemment, à l'étranger, le film est parti dans le monde entier et que beaucoup de pays étrangers qu'on ne contrôle pas ont appelé ça La Boum 3. Même pas sous-titré.
Titré. Oui, ah oui, bim.
Quelle réception critique. On en a parlé plusieurs fois. On va écouter nos camarades du Masque et la Plume. Est-ce qu'ils ont retrouvé devant La Boum leur cœur d'ado? Suspense.
Bon, il y a un film qui fait un malheur actuellement, me dit-on. Moi, j'en sais rien, je suis pas chargé de compter. La Boum de Monsieur Claude Pinoteau. Ah ben, tout le monde a mal. Les gens qui le voient.
Ah, les jeunes n'aiment pas, bravo.
Ah non? Ah bon? Ah ben, moi, je connais des jeunes qui ont aimé, alors c'est intéressant.
Ah bon?
Quoi? Ah ben on va aller prendre celle-là. Ne mangez pas votre chewing-gum pendant que vous parlez, simplement. Alors, mademoiselle, à vous, oui.
Oui, j'ai vu le film, il est pas mal, mais disons, c'est un peu exagéré. Ouais. Disons, les relations entre parents et enfants, c'est exagéré, je trouve.
C'est pas à ce point...
C'est étiré.
Attends, laisse-la pas... Comment? C'est pas à ce point...
C'est vraiment du cinéma, parce que, je sais pas, ça fait pas réel.
Oui, chez vous, ça va mieux, alors. Non?
Non, c'est...
Quand vous allez dans une boum, comment vous faites, vous?
Je sais pas, les parents sont trop sur leur fille, ils ne lui laissent aucune... Je sais pas, mes parents sont plus libres que ça.
Ils sont mieux?
Oui.
Oui, bon. Et vous avez aimé le film?
Non.
Il est, oui, bien, mais sans plus.
Sans plus. Bien, merci, mademoiselle.
Bon, alors les critiques dans cette longue émission avaient la dent assez dure hein, contre le film, c'est souvent le cas face à des grands succès populaires. L'émission se tient le 10 janvier 1980, donc quelques semaines quand même après la sortie du film. Mais c'est étonnant cette réaction, je ne sais pas comment vous l'entendez, Daniel Thompson, hein, parce que il vous est aussi en partie reproché par l'un des critiques du Masque et la Plume de donner une part trop grande à l'histoire des parents. Et elle, cette jeune spectatrice, nous dit que les parents sont trop pour elle dans la représentation que vous en faites. On est en 1981. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport parent-enfant, de l'autorité parentale, plus de 10 ans après mai 68? Et pourquoi vous avez choisi de laisser une place aussi importante dans le film à la relation des parents?
Ben d'abord, c'est très autobiographique, donc j'imagine que j'avais envie de parler de moi, purement et simplement. Mais ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'était intéressant pour moi de raconter ce parallèle entre cette vie intense que vivait cette petite fille pour la première fois et la vie que je traversais moi aussi à l'époque et qui était... je trouvais un sujet très intéressant parce que on ignore complètement, effectivement, l'intensité des émotions que vivent les autres en général et encore plus ses enfants évidemment et cette relation parent-enfant. Donc ce qui m'amuse très souvent d'ailleurs dans les critiques, c'est qu'on voudrait qu'on ait fait un autre film. On vous demande finalement d'avoir fait un autre film, mais en fait on a fait le film qu'on a voulu. Moi ce parallèle m'importait beaucoup, d'autant plus que justement il y avait aussi cette relation entre la mère et sa grand-mère. Voilà, ce sont des familles où les gens se parlent. Et toutes les familles ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on ne se parle pas. Et...
D'ailleurs, Daniel, au début du film, dès les premières minutes du film, une des scènes qui se déroule dans une salle de classe, il est fait mention de deux divorces, de deux couples de parents divorcés. Puis je crois qu'il y a un gamin dans l'assistance qui dit que les siens, ça va pas très fort en ce moment. Et ça, c'est le début du film. Or, le divorce à cette époque, c'est quand même un phénomène... qui commence à se développer hein, et qui va devenir, d'ailleurs c'est exponentiel, hein. Il y aura même je crois au début des années 90, génial, mes parents divorcent, ouais, mais au début des années 80 c'est pas si fréquent j'imagine.
Absolument,
le divorce.
Aujourd'hui si on va dans une classe de gens de cet âge-là, je pense que la moitié des parents sont divorcés, ça, c'est un grand changement. Mais moi je trouve l'histoire des adultes très importante, parce qu'en plus...
En fait il n'y a pas d'adolescence sans adultes.
Oui, et puis ça montre aussi par exemple cette fameuse scène où ils annoncent à Vic qu'ils vont se séparer et où en fait elle ne pense qu'à une chose, c'est, ah ben oui, mais le samedi, c'est la boum, et en fait, finalement, elle arrive à un âge où elle commence à ne plus en avoir rien à fiche que les parents s'engueulent ou même se séparent, parce que la vie sentimentale est en train de remplir la tête et le cœur, et donc, il y a aussi cet égoïsme des enfants qui ne se rendent pas compte qu'en fait, les parents sont en train de vivre une véritable tragédie.
Qu'est-ce qui fait un grand film sur un sujet que beaucoup pourraient considérer comme un petit sujet. C'est-à-dire les grands critiques de cinéma vont pouvoir estimer que cette question de l'adolescence, la vie quotidienne des ados, au fond, il ne s'y passe pas grand-chose et ça peut être un peu, comme vous disiez, superficiel tout à l'heure, Alex Baupin. Olivier, Alex, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que La Boum est un grand film, reste et restera encore?
Alors moi c'est vraiment complètement idiot, j'ai un truc vraiment qui peut sembler stupide, mais moi j'ai toujours l'impression que c'est le temps qui fait le tri en fait. C'est-à-dire que les films restent ou restent pas, les œuvres restent ou elles ne restent pas. Ça a 43 ans, La Boum, peut-être. On continue à en parler dans les films qui ont changé le monde sur France Culture. Voilà, les gens continuent à le voir, des gens de 20 ans continuent à aller voir Daniel pour la féliciter. C'est vraiment, ça peut sembler complètement bourrin, mais moi je crois que c'est ça qui fait le tri dans les œuvres qui sont des grandes œuvres ou des petites choses.
Olivier Davenas.
Il me semble que La Boum est un grand film, est un film marquant et qui va le rester parce qu'il n'est pas prisonnier de son époque. Ça c'est très important, alors que dans American Graffiti ou après La Boum, dans Outsiders ou ces réalisateurs qui vont nous raconter leur jeunesse, ils vont pas raconter l'adolescence, ils vont nous raconter leur génération. Donc voilà, ce contexte il a tendance à annihiler la dimension d'universel d'un film sur l'adolescence, alors que La Boum fait ça très bien. Et puis il y a cette spécificité dont on vient de parler à l'instant, c'est-à-dire l'histoire d'amour, la tragédie amoureuse des parents, ça se termine bien ceci dit, et cette comédie de remariage mélangée au film ado, ça me semble aussi c'est à mettre au crédit de La Boum comme film tout à fait singulier.
Vous nous avez pas dit, tous les trois, quels souvenirs vous gardez de votre première Boum? Et surtout de la première fois que vous avez vu La Boum? Vous avez le choix dans la question.
Moi, ma première Boum, je me souviens de quelque chose, c'est que quand j'ai fait ma première Boum, j'avais vu La Boum. Je me souviens, alors peut-être que... Mais moi, j'étais en province, alors peut-être je vais faire le petit gars de province, mais peut-être qu'on était moins libérés que les adolescents parisiens. Mais moi, je me souviens qu'on dansait des slows de façon beaucoup moins collée serrée, en fait. Alors, c'est pas très radiophonique ce que je vais faire, mais imaginez deux Playmobil avec les bras tendus qui dansent les yeux l'un en face de l'autre et qui dansent comme ça. Et moi, j'avais vu la Boom, et ma première Boom, c'était une grande déception pour moi, parce que je me disais, tout ça n'est pas du tout sensuel, et beaucoup moins chaud que ce que j'avais vu avec Sophie Marceau, quoi.
Daniel Thompson. Votre
moi, je
première
pas
boom.
Pas vraiment de la première sur boom, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mais je me souviens très bien finalement de cette atmosphère d'angoisse qui est celle vraiment de cet âge-là. De effectivement, est-ce que je me suis habillée comme il faut? Est-ce que j'ai pas trop des grosses cuisses? Est-ce que je vais rencontrer un garçon qui me plaît ou une fille qui me plaît? Est-ce que il y a quelque chose où tout le monde, un petit peu d'ailleurs comme la scène qu'on a entendue quand ils viennent les inviter, où chacun fait comme s'il était très décontracté et une frime et tout ça, mais en fait il y a la peur au ventre quand on arrivait dans ces surbooms, on a le cœur qui bat et on se demande vraiment s'il va se passer quelque chose de définitif dans sa vie ce soir-là.
Olivier Davenas, à vous, parce que vous nous avez dit que vous l'avez revu ce week-end ou quelques jours auparavant. Mais est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le film?
Oui.
Vous aviez quel âge, à peu près?
J'avais 30 ans. Je l'ai vu quand mon éditeur m'a commandé.
Le livre, vous ne l'aviez pas vu avant?
Non, je ne l'avais pas vu avant.
Alors c'est ça la question que je me posais. Peut-être on peut y répondre tous ensemble, mais est-ce que c'est un film qui parle autant aux filles qu'aux garçons?
En tout cas, ça parle à mon côté féminin.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un grand personnage. Il y a les amoureux, il y a Raoul, il y a Mathieu, mais il n'y a pas un grand personnage de garçon dans le film. Bah,
c'est Stéphane,
le père, hein.
C'est Stéphane père, qui m'a beaucoup marqué, même si s'il n'est pas tant présent que ça dans la narration. Mais voilà, ce personnage qu'on appelle aujourd'hui le geek ou le nerd, avec son appareil dentaire.
Il est très touchant.
À qui Vic pose un lapin. Oui, il est extrêmement touchant. Alors, je me suis forcément identifié à lui.
Parce
pour
que
moi,
vous
il n'y avait pas d'enjeu quand j'étais invité à des booms. Je savais qu'avec les filles ou avec les garçons, d'ailleurs, il ne se passerait rien. Donc, j'y allais pour faire le rigolo. Mais ce Stéphane,
mais
il est très touchant.
Même.
Oui, forcément, toujours avec
ça.
Un petit peu d'espoir.
Cette
mais
émission est en
à
train
la fin
de partir
de la boom
complètement.
2, c'est Françoise, le personnage interprété par Brigitte Fosset, qui pointe quand même avec le fait que Stéphane souffre.
Ouais.
Ça m'a marqué.
Et vous trouvez qu'on n'en parle pas assez de la souffrance de l'adolescent dans le film? Si, quand même.
En particulier des adolescents lunetteux et un peu geeks, ouais. On a fait des progrès depuis, hein, quand même.
Bon, vous imaginez comment on va se quitter?
En dansant des slow?
En musique aussi, en dansant un slow.
Quart d'heure américain.
C'est vrai? Bon, qui choisit? Deux femmes, deux hommes dans ce studio. C'est parti.
Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind.
La boum! Ah bah tu plaisantes, hein. Vic! Vic! Sophie! Mm. Je lui ai écrit une lettre d'amour quand j'avais 16 ans. Je lui ai demandé si elle voulait pas m'épouser. Parce que d'abord, je crois que tous les adolescents de France ont voulu épouser Sophie Marceau.
Les derniers mots revenaient à l'acteur Benoît Poulvorde, qui était fou, amoureux de Vic, comme tous les garçons, nous disait-il. Un grand merci à vous trois, heureux d'avoir partagé ce moment. Daniel Thompson, Alex Baupin, Olivier Davenas, merci beaucoup d'être venus nous parler de La Boom, le film de Claude Pinotot à la réalisation que vous avez scénarisé, Daniel Thompson, sorti en 1980. Sophie-Catherine Gallet a programmé merveilleusement et en dansant cette émission, elle l'a également préparée avec l'aide précieuse de Félicie Faugère à la réalisation et à la technique, Xavier Lévesque. Comme un vieux 45 tours, vous pouvez vous repasser, réécouter cette émission en boucle en vous abonnant au podcast de l'émission Les films qui ont changé le monde de France Culture sur l'application Radio France.